Des images partagées notamment par le député fédéral Théo Franken de la NVA montrent un imam pakistanais entonnant une prière islamique à la tribune du Parlement bruxellois, une prière appelant explicitement au massacre des Juifs. Nous en parlons avec Florence Bergeau-Blackler, l'anthropologue chargée également de recherche au CNRS. Elle est au micro de Blaise van der Linden.
Bonjour Florence Bergeau-Blackler.
Bonjour monsieur.
Vous êtes anthropologue chargé de recherche au CNRS. Ce vendredi, une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux montrant un imam, Mohamed Ansar Butt, réciter des versets d'une sourate du Coran à la tribune du Parlement bruxellois après avoir été décoré devant ce Parlement. Alors, pour commencer avec vous, si vous le voulez bien, en sait-on un peu plus sur ce personnage qu'est Mohamed Ansar Butt?
Alors on n'en sait pas grand-chose, à vrai dire. C'est un personnage qui est assez mystérieux puisqu'il apparaît et il apparaît pas n'importe où, hein, au Parlement de Bruxelles. On en sait aussi peu que finalement sa prestation est apparue presque anecdotique. La presse belge a mis une semaine à se rendre compte en fait de sa présence au Parlement et du fait qu'il ait psalmodié une sourate du Coran à la suite de l'alerte donnée par des internautes sur Twitter et puis reprise par des personnalités, notamment Théo Franken, qui a le premier, je crois, tweeté sur le fait que il y avait absence de neutralité, hein, dans le fait de réciter une sourate dans un parlement. Et puis il y a eu une deuxième vague plus d'émotion cette fois-ci avec le tweet de l'ambassadrice d'Israël en Belgique qui s'est émue de du contenu de cette sourate, puisque le verset qui est psalmodié ici appartient à une sourate qui rappelle la façon dont il faudrait traiter les mécréants, et notamment, c'est une très longue sourate, le massacre et la mise en esclavage de certaines tribus juives.
Oui, c'est ça. Dans cet exemple concret, la sourate qu'il récite appelle très clairement au massacre des Juifs.
Alors, c'est pas celle qu'il récite, hein. Le verset qu'il récite, qu'il psalmodie, c'est un des éléments, mais je dirais plus soft, de cette sourate médinoise qui fait partie des sourates de la période guerrière de Mohamed.
D'accord. On parle alors du fait qu'il ferait partie d'une organisation appelée Dawat et Islami Belgium. Donc cet imam en ferait partie concrètement. Elle consiste en quoi cette organisation?
Oui, on remarque assez facilement, si on cherche un peu sur Internet, que ce personnage, donc cet imam pakistanais, a des liens avec les Barelvi, qui est un groupe piétiste d'origine soufie, mais qui s'est radicalisé au cours de ces dernières décennies, et qui est impliqué notamment dans la tentative d'attaque de Charlie Hebdo en 2020. Lorsque donc un jeune Pakistanais avait tenté de venir attaquer Charlie Hebdo dans ses anciens locaux.
Aujourd'hui, c'est un groupe qui est fortement implanté en Belgique.
Alors, il n'est pas fortement implanté, par contre, il a été présenté par une députée ou je ne sais pas si c'est une députée d'ailleurs, mais quelqu'un qui l'a finalement invité dans une arène publique. Ce qui est certain, c'est que ce groupe piétiste a des liens avec des groupes djihadistes. D'ailleurs, les piétistes et les djihadistes ne s'entendent pas forcément, mais c'est un groupe piétiste qui prône un endoctrinement pacifique, alors que les djihadistes sont plutôt dans une espèce de revanche violente. Mais ils se retrouvent tous les deux, tous ces groupes, autour de l'attachement à la figure du prophète, qui est pour tout musulman une figure quasi sacrée, à une figure d'imitation. Donc, ces imams piétistes sont, disons, pas très présents, hein. Je veux dire, il y a très peu de Pakistanais en Belgique, mais ils endoctrinent des jeunes musulmans et notamment ceux qui sont nés de familles pakistanaises. Je crois que notamment à Anvers, ils ont des écoles pour d'endoctrinement en fait des jeunes enfants belges.
Sur votre compte X, vous avez relayé un tweet du lanceur d'alerte belge Peter Veyle qui parle d'un deuxième imam radical pakistanais qui a également été honoré au Parlement bruxellois. Il s'appelle Adnan Feroz et lui, il a un profil assez inquiétant. Il est proche du salafiste Saïd El-Mokadmi. et du prédicateur du djihad, Mohamed Taki Ousmani.
Oui, c'est ça. En fait, c'est ces nébuleuses salafistes, alors qu'on dit piétistes, mais qui ont quand même des liens avec les djihadistes, sont assez peu connues, sont des personnalités qui sont peu connues. Généralement, ils prêchent en ourdou, donc pas en arabe, donc c'est difficilement accessible. Ils sont, ou alors ils parlent en anglais, mais disons qu'ils sont, ils font partie d'une nébuleuse qui travaille à diffuser en fait un islam rigoriste, parfois violent, intolérant.
C'est notamment la cible principale, ce sont les enfants qui sont dangereusement endoctrinés, non?
Ben c'est ça, je pense que c'est effectivement ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce qu'ils font sur le territoire, même s'ils ne posent pas des bombes, voilà, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils le disent, hein, en réalité, ils veulent convertir les mécréants à la meilleure des religions, selon eux. Donc, il faut quand même un peu les surveiller, même s'ils ne travaillent pas en dehors de la loi.
L'implantation de groupes de ce genre en Belgique, elle a l'air de devenir très problématique. On a vu par exemple il y a une semaine des révélations qui expliquaient que le Hamas était également présent sur le territoire.
Ah ben de toute façon, à Bruxelles, hein, tout le monde, la terre entière, hein, est présente en raison de l'existence des institutions européennes et des institutions de lobbying, des entreprises, etc. Donc, évidemment, on va les retrouver. Après, c'est pas forcément des populations très 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 importantes, mais en fait, tous ces groupes-là ont des liens entre eux, hein. Ce sont des prêcheurs qui ont des réseaux internationaux. Et c'est le cas de cette Dawat. Et c'est pour ça qu'il nous faut comprendre en fait ce système de prosélytisme islamiste qui ne s'arrête pas aux frontières des États, qui se mobilise en tant que réseau. Et pour ça, il faut comprendre l'acteur, le système, sa vision, son identité, son plan, tous ces éléments-là qui permettent de comprendre ce que c'est aujourd'hui que l'islam politique et comment il vit dans nos sociétés sécularisées.
Justement, vous parliez du fait que Bruxelles était le centre de l'Europe et que ça ne s'arrêtait pas aux frontières. Aujourd'hui, quelle est la situation en Europe?
Alors, moi, j'ai fait un livre hein, qui s'appelle Le frérisme et ses réseaux, dans lequel je décris c'est un certain nombre de ces réseaux, alors en particulier les réseaux maghrébins, et j'explique voilà comment ils se sont développés à partir des années 60-70, comment ils ont développé leur idée et finalement leur vision d'un leur je les appelle si vous voulez système d'action avec des domaines d'activité. Donc, il y a le djihad, bien sûr, mais il y a d'autres systèmes d'influence, comme l'islamisation de la connaissance, comme le fait de faire des stratégies d'entrisme, de noyautage dans les entreprises pour diffuser leurs paroles. Généralement, ils agissent dans le cadre de la loi, mais évidemment, ils sont pas du tout dans une optique sécularisée. Et ce qu'ils veulent, c'est la dawa, c'est-à-dire la prédication, faire connaître leur religion. Alors, sur la question aujourd'hui qui nous occupe d'Israël-Palestine, ils ont évidemment pris parti pour les Palestiniens parce que pour eux, la Palestine, c'est un territoire prioritaire à conquérir, parce que tant que la Palestine n'est pas conquise, eh bien le reste du monde ne pourra pas être conquis. C'est un peu comme ça qu'ils voient leur destinée partout dans le monde.
Justement, sous couvert de défendre cette cause palestinienne, font-ils parvenir un message qui est différent? Il y a des vidéos qui montrent de jeunes personnes en France, par exemple, crier Hamas, Hamas vaincra. C'est sous couvert de cette cause palestinienne qu'ils font parvenir leurs idées à ces jeunes enfants?
Oui, c'est ça. Ça peut être. Alors, généralement, c'est plus. Je ne sais pas si c'est un vecteur chez les jeunes enfants musulmans. Oui, ça peut compter parce que dans les familles maghrébines ou dans les familles turques, la question palestinienne est une question sensible depuis plusieurs générations. Mais leur prosélytisme ne s'arrête pas aux familles musulmanes. Il va beaucoup plus loin aux familles non musulmanes. Et là. La question de la Palestine est plus difficile à faire passer. Donc, ils utilisent aujourd'hui la propagande hein, qu'on voit sur les réseaux sociaux et qui accuse donc Israël de vouloir faire un génocide des Palestiniens. Et ça, évidemment, quand on parle de génocide en Europe, ça fait sens. C'est justement le génocide des Juifs et l'idée que les Juifs seraient devenus en fait les nouveaux génocideurs. Donc c'est cette perversion de l'histoire, de cette incompréhension. En fait, c'est cette oui cette perversion de l'histoire qui leur permet aujourd'hui de recruter. C'est vraiment et puis avec il faut pas l'oublier le jeu assez particulier des mouvements de gauche et d'extrême gauche, d'ultra gauche qui jettent de l'huile sur le feu pour ramasser les voix électorales.
Florence Bergeau-Blackler, je rappelle que vous êtes anthropologue chargée de recherche au CNRS. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.
Merci à vous.